Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il s'était fait discret depuis la présidentielle. Arnaud Montebourg réapparaît dans le débat public. L'ancien ministre du redressement productif prend la plume dans Le Monde pour déplorer la véritable anti-politique industrielle à l'œuvre, selon lui, à travers la vente de la branche ferroviaire d'Alstom au groupe Siemens. Il n'est pas trop tard pour nationaliser Alstom, estime Arnaud Montebourg. Sans quoi, dit-il, il faut s'attendre à moyen terme à la destruction de milliers d'emplois. Or, cette affaire relance un vieux débat autour du rôle de l'État en matière de politique industrielle et plus largement dans le domaine de l'emploi. L'État a-t-il vocation à diriger ou co-diriger des entreprises? Doit-il se contenter d'être le principal employeur du pays? Et en période de crise, sa responsabilité l'oblige-t-elle à subventionner certains emplois, ce qui renvoie à la question des contrats aidés, à investir fortement dans des domaines d'avenir? On pourrait multiplier les questionnements, d'autant que les marges de manœuvre ne s'arrêtent pas là. La politique fiscale, le droit du travail sont des leviers plus ou moins efficaces pour agir sur le terrain de l'emploi. Alors, emploi, une affaire d'État ? Eh bien, c'est la question et le thème du débat que nous avons choisi pour relancer en cette saison qui commence à peine notre partenariat mensuel avec le journal La Croix et donc avec Guillaume Goubert. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Directeur du journal. Nous serons cette saison en partenariat tous les derniers jeudis du mois, ce qui change un peu de l'an dernier. C'était tous les premiers jeudis et nous essaierons de revenir sur une des grandes questions du mois écoulé. Il se trouve que justement cette question de l'emploi a été omniprésente. Et pour en discuter, nous avons convié deux économistes. Christian Saint-Étienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, conseiller de Paris pour les Républicains. Votre dernier ouvrage, c'était l'an dernier chez Odile Jacob, Relever la France. Et pour discuter avec vous, Mathieu Plane, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint au département Analyse et Prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez été le conseiller économique d'Arnaud Montebourg lorsqu'il était à Bercy. Alors pour démarrer cette discussion dans laquelle il y a énormément de sujets à aborder, mais on va peut-être commencer par ce qui a fait l'actualité cette semaine, en tout cas un des éléments de l'actualité de cette semaine est la fusion, le rachat d'Alstom par Siemens, une opération qui a été saluée par le gouvernement, même si l'État ne sera pas présent au capital de la nouvelle entité. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, expliquait pourquoi hier.
L'État n'a pas vocation à être assis sur un strapontin dans les conseils d'administration pour regarder les décisions se prendre sans qu'il puisse intervenir. Le rôle de l'État, c'est d'être acteur, pas observateur. Le rôle de l'État, c'est de garantir des intérêts stratégiques de l'industrie de la nation française. C'est ce que nous faisons. Par ailleurs, les commandes publiques nous paraissent un moyen d'intervention et d'influence sur l'avenir de ce secteur ferroviaire beaucoup plus important qu'une participation accessoire et résiduelle dans un conseil d'administration. Donc nous assumons totalement cette décision stratégique.
Alors Bruno Le Maire, Christian Saint-Étienne, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche qui est celle du ministre de l'économie, c'est-à-dire l'influence, elle est plus importante à travers les commandes publiques plutôt que dans la présence dans des conseils d'administration, présence qui ne donne pas grand pouvoir, d'après lui, à l'État?
Alors là, on est face à un secteur très spécifique et effectivement, dans le ferroviaire, la commande publique est clé. Donc, on peut comprendre que Bruno Le Maire dise ça. Malgré tout, quand on sait comment les décisions se prennent, si l'État français avait gardé 15% du nouvel ensemble, ça aurait certainement été davantage rassurant pour les dizaines de milliers d'employés d'Alstom.
Parce qu'il aurait eu un levier pour justement éviter que des emplois disparaissent, le cas échéant, c'est ça ?
Quand vous passez par la commande publique, ça devient très technique, mais quand vous passez par la commande publique, vous l'adressez à des opérateurs, la SNCF ou la RATP, qui ont leurs propres objectifs, qui vont faire un appel d'offres, qui vont négocier avec les entreprises qui peuvent répondre à cet appel d'offres. Donc, il va y avoir de nombreuses considérations qui vont entrer en ligne de compte, d'une part. D'autre part, ça peut sembler surprenant pour les auditeurs, mais un ministre et les équipes de Bercy ont 100 000 choses à faire. Donc, elles vont pas suivre au jour le jour les équipes d'Alstom. Donc si on avait un représentant ou deux de l'État qui, à chaque conseil d'administration, suivent de très près toutes les décisions qui sont prises et qui puissent participer à la définition de plans stratégiques, ça donnerait une information a priori plutôt que vraisemblablement, dans le cas où nous allons nous trouver, des informations a posteriori qui laisseront peu de marge de manœuvre à l'État pour agir.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Plane? Et peut-être pour élargir un petit peu la question, est-ce qu'on peut considérer que lorsque l'État est présent au capital d'entreprise, les salariés ont peut-être davantage de moyens d'être protégés dans leur emploi?
Oui, certainement, surtout sur des actifs industriels de cette envergure. On voit qu'Alstom, c'est quand même une grande entreprise dans l'industrie qui, justement, est spécialisée dans la fabrication de ferroviaire, notamment. Il y a la question aussi du TGV du futur. Le problème, il est surtout que là, dans le deal qui va se faire avec Siemens, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut imaginer que là, aujourd'hui, la taille critique nécessaire, c'est une consolidation du secteur au niveau européen, donc une alliance avec les Allemands est peut-être la bonne chose. Le problème, c'est que d'abord, la France sera minoritaire dans ce nouveau groupe, et puis l'État se désengage. Donc il y a effectivement un risque au-delà de 4 ans, parce qu'il y a une garantie de l'emploi sur 4 ans, mais 4 ans, finalement, c'est pas grand-chose, hein, alors pour l'horizon d'une entreprise. Et on peut bien sûr imaginer qu'effectivement, il y a la commande publique qui joue, mais c'est un levier parmi d'autres, et que les Allemands, alors même si, une fois de plus, il y a une ambition, certainement, de créer une alliance stratégique intéressante, effectivement, vous perdez. Il y a risque de perdre le contrôle face à ça. Je trouve que ce qui est dommage, à chaque fois dans les alliances industrielles qui ont été faites, c'est bien de faire des alliances européennes, le cas d'Airbus le montre, mais il y a souvent un déséquilibre, et ce déséquilibre est souvent en défaveur des Français.
Je ne vais pas vous renvoyer pendant toute l'émission à votre passé de conseiller économique d'Arnaud Montebourg, mais il se trouve que comme il intervient aujourd'hui sur le sujet, en disant le risque, c'est notamment qu'il y ait des suppressions d'emplois par milliers, et que la solution, selon lui, c'est de nationaliser Alstom, en disant en tout cas, il est encore temps de nationaliser Alstom. Les nationalisations, alors c'est évidemment un outil que peut avoir l'État pour préserver l'emploi. Dans ce dossier-là et dans peut-être d'autres dossiers aujourd'hui, c'est un outil qui vous paraît pertinent l'un à l'autre,
alors,
Mathieu Plane?
Oui, il peut être pertinent. Je pense que le cas intéressant, c'est les chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est STX. On voit que l'État a justement fait jouer ce décret, le fameux décret mis en place par Montebourg en 2014, qui définissait un périmètre d'actifs stratégiques dans lequel, effectivement, les transports, et notamment les navires militaires ou même les grands paquebots, rentraient. Et donc, ça a donné la possibilité de renégocier un accord potentiel plus équilibré avec les Italiens.
Là, dans l'accord avec Fincantieri, donc c'est 50% des chantiers navals de Saint-Nazaire qui passent chez l'Italien, plus 1%, mais ce 1%, il pourra être mis en cause si les engagements ne sont pas tenus, notamment justement sur le terrain de l'emploi.
Voilà, et justement, ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre, en tout cas, le deal initial n'était pas comme ça. Donc, on a quand même, les Italiens, finalement, participent, en tout cas, sont quand même les investisseurs au final du truc, mais on a un rééquilibrage. C'est-à-dire que, du coup, c'est aussi un outil stratégique dans la négociation. Il ne faut pas s'en priver. Après, est-ce que c'est une nationalisation temporaire ou définitive? C'est une question. Est-ce que c'est pour aider un secteur en difficulté parce que c'est temporaire? Ou alors, est-ce que c'est nationaliser un secteur parce qu'on souhaite qu'il soit sous une production d'État? Mais tout ça est intéressant. En tout cas, il faut bien avoir en tête que les autres grands pays du monde ne se privent pas d'utiliser ce type d'outils, en tout cas.
C'est un peu du cas par cas, finalement, Christian Saint-Etienne.
C'est du cas par cas, mais enfin, c'est un peu ce que je voulais dire, il y a des questions stratégiques fondamentales derrière. Mathieu a raison de dire que pas mal d'alliances qui se sont faites où les Français apparaissent dans une position de junior face à d'autres acteurs qui sont en position senior, c'est pas vrai partout, mais notamment dans l'industrie, dans les quelques dernières années, ça a été souvent vrai. Et ça fait ressortir plusieurs choses. Pourquoi on est dans cette situation? C'est évidemment le résultat de 15 ans de désindustrialisation. Gauche et droite confondus, c'est pas le sujet. La France avait encore une industrie puissante il y a 20 ans, et elle s'est extrêmement affaiblie. La part de la production industrielle dans le PIB a baissé de 30%, ce qui est à l'origine de l'effondrement de nos exportations en part de marché au niveau mondial. Notre industrie a sous-investi depuis une dizaine d'années. Il faut savoir que la production industrielle de la France en 2017 est à peine au niveau de 97. Donc, alors, et si on compare à 2008, nous sommes encore 10 à 12% en dessous, alors que les Allemands sont à 15% au-dessus. Donc, il y a un problème spécifique à l'industrie. On voit que dans les autres secteurs économiques, dans la banque ou dans les services de la croissance durable, on a de très belles entreprises qui sont plutôt en position de conduire les opérations quand il y a des fusions ou des rapprochements. C'est spécifiquement dans l'industrie qu'il y a eu un affaiblissement colossal. C'est notamment aussi lié au fait qu'il y avait des taux de marge dans la production industrielle qui étaient à peu près 10 points de moins que ce qu'il y avait chez les concurrents. Et donc, ça s'est traduit par un endettement plus élevé, ça s'est traduit par un sous-investissement. Et donc, pour finir, ça conduit à une réflexion globale au-delà de ces cas particuliers. Je pense qu'il faut effectivement avoir une politique macroéconomique et une politique fiscale et sociale d'ensemble qui permettent à l'économie française de rebondir. Mais je pense qu'il doit y avoir une réflexion spécifique sur la stratégie industrielle de la France qui nous permette de ne pas louper les rendez-vous du futur. Mathieu évoquait le TGV du futur. Il faut que ça se fasse en France, sinon les usines fermeront dans 10 ans ou 15 ans.
Guillaume Gouvert.
Mais est-ce que malgré tout, il s'agit quand même de grandes industries, de grandes unités industrielles, qu'on peut considérer comme hérité du passé, alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux pans de l'économie qui se développent sur un mode complètement différent, avec beaucoup moins de capacité de production propre, avec plus de sous-traitance, aussi sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs aussi... Enfin, ce n'est pas des cathédrales industrielles, bon, tous les secteurs liés aux nouvelles techniques de communication, au secteur numérique. Est-ce que l'État ne risque pas de consacrer trop de moyens et trop d'énergie à cet héritage du passé, alors qu'il faudrait investir davantage via des outils, je ne sais pas, comme la Banque publique d'investissement, la BPI, dans des secteurs en plein potentiel de développement, Christian Saint-Étienne?
Alors, je répondrai simplement et rapidement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, en fait. Je vous donne un exemple. Je parle sous contrôle de Mathieu, qui a certainement regardé ça aussi. Mais si vous regardez l'ensemble des emplois créés par la French Tech sur 7 à 8 ans, on a aujourd'hui un encours de 30 à 35 000 emplois. C'est le nombre d'emplois chez Alstom. Donc la French Tech, c'est sexy, c'est les nouvelles technologies, c'est absolument nécessaire et il faut qu'à terme, les 35 000 deviennent 150 000. Mais il y a 26 millions de gens qui bossent en France, il y en a encore 30 000 dans la sidérurgie, il y a Alstom. Et puis, c'est pas que le passé. Quand on parle du TGV du futur, c'est clé, d'autant plus qu'on a une stratégie globale pour entrer dans la croissance durable. La croissance durable, qu'est-ce que c'est ? C'est de la densification de l'habitat intelligente sur des transports en commun. Donc tout ce qui est train et tout ce qui est tramway et tout ce qui est métro, c'est absolument clé pour les modèles futurs des 30 prochaines années de croissance durable. Donc une boîte comme Alstom, c'est pas une boîte du passé. Bien managée et bien conduite avec des moyens adaptés, c'est une boîte du futur. Mais effectivement, si on loupe le TGV du futur ou le tramway du futur, dans 10 ans, c'est foutu.
Voilà, il ne faut pas insulter le présent en se préoccupant uniquement de l'avenir. Mathieu Plane, il y a eu justement, là encore pour rester sur l'actualité de cette semaine, l'annonce d'un grand plan d'investissement fait par le gouvernement. 57 milliards d'euros alors qu'ils vont être répartis entre les programmes pour la transition écologique, la formation, l'innovation, la numérisation des services de l'État. Est-ce que, alors là encore pour rester dans notre thématique de ce soir, l'État est dans son rôle quand il investit pour favoriser peut-être le développement ou l'émergence de certaines formes d'économie, et est-ce qu'il doit choisir entre justement ce que sera l'économie du futur ou bien alors être peut-être beaucoup plus efficace en agissant sur des choses qui existent tout de suite avec des effets qui peuvent se faire ressentir, notamment sur la question de l'emploi?
Oui, alors il y a effectivement cette idée que l'État peut être un moteur en fait d'un certain nombre de domaines. On le voit par exemple sur la transition écologique, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des incitations fiscales, il faut aussi vraiment qu'il soit au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il génère de l'investissement. On le voit, certains nombres de choses, par exemple, si on, c'est au-delà de l'investissement, par exemple, la formation dans le capital humain, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. On le voit sur tout ce qui est numérisation, développement de la fibre, par exemple, le très haut débit partout en France qui participe à une meilleure communication. L'État a un rôle clé. Donc, on voit qu'il va initier un certain nombre de choses. Après, je voulais juste faire une petite parenthèse sur la question de l'industrie, l'industrie du futur. C'est vrai qu'il ne faut pas opposer le numérique, digitalisation et l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les transports propres, le TGV du futur sont des choses importantes pour notre avenir. Et ça participe aussi à notre innovation, à la productivité. Je voulais juste rappeler ça, c'est que l'industrie concentre 80% de la recherche et du développement. Donc, et génère des services qui vont avec. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un outil puissant et important. Et donc, l'État a un rôle clé là-dessus, hein. C'est-à-dire que il y a des programmes d'investissement, d'investissement d'avenir, des politiques industrielles. Alors, il faut bien les coupler avec la fiscalité. C'est-à-dire comment on accompagne aussi le fait que des start-up, des entreprises innovantes vont atteindre finalement une taille critique pour être compétitives à l'export. Ça, c'est le rôle aussi d'accompagnement de l'État. Mais pour moi, le plan d'investissement est quelque chose d'essentiel, justement. Mais par contre, il faut définir une trajectoire, savoir où on va et savoir là où finalement l'État aura un rôle clé parce que le privé ne le fera pas spontanément.
Dans le journal La Croix de ce jour, dans lequel vous répondez l'un et l'autre à la question, alors qui est un peu plus ciblée que celle qu'on pose ce soir, mais la loi peut-elle créer de l'emploi. Et votre réponse à vous, Mathieu Plane, enfin votre réponse, elle est beaucoup plus élaborée que ce que je vais dire, mais en tout cas c'est le titre qui a été trouvé pour votre réponse, c'est, vous dites, c'est la croissance qui crée de l'emploi. Est-ce que vous considérez l'un et l'autre que justement le rôle de l'État, ça n'est peut-être pas de créer directement de l'emploi, mais c'est de créer de la croissance qui, elle, va créer de l'emploi, Mathieu Plane?
Alors moi je pense que le rôle de l'État, c'est de créer les conditions de ça. Et après, au-delà même de la quantité d'emploi, il y a même la qualité de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat de savoir comment vous faites baisser votre taux de chômage, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment les emplois sont créés, est-ce que c'est des temps partiels, est-ce que c'est des temps partiels subis, est-ce que c'est des CDI, donc il y a tout un tas de choses. Par contre, l'État, il a un rôle clé, c'est qu'il va définir le cadre des contrats de travail. Il va dire où est-ce que se trouve la limite. Après, il va jouer sur un autre aspect qui est essentiel, c'est la fiscalité. Par exemple, quand on fait des allègements de cotisations sur les bas salaires, c'est pour enrichir la croissance en emploi, c'est pour que donner une incitation d'embaucher plutôt pour les gens qui sont, on va dire, moins qualifiés. Et puis après, il a un rôle régulateur, à la fois en tant qu'employeur, parce qu'il faut bien faire fonctionner les services non marchands, l'éducation, l'intérieur, la défense, bon bref, la santé, les hôpitaux. Et puis, même dans ce qu'on appelle les emplois aidés, c'est-à-dire dire il y a des gens qui sont éloignés du marché du travail, qui sont, ont très peu de possibilités d'accéder à l'emploi sur un marché privé. Et donc, est-ce qu'on les laisse de côté ou est-ce qu'on les forme et on leur propose ce type d'emploi? Donc, il a un rôle, à mon avis, clé. Et par contre, ça renvoie un vrai choix de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Dans aucun pays, il y a surtout des choix de société et ces choix de société doivent être expliqués.
Christian Saint-Etienne.
L'État, donc, effectivement, peut contribuer de manière décisive aux conditions de la croissance, mais ce qui fait la croissance et la croissance fait l'emploi, c'est l'accumulation de capital et c'est l'accumulation des compétences de la population, donc capital productif et les compétences de la population. Les compétences de la population, ça passe par une école à l'issue de laquelle les gens savent lire, écrire et compter. Thierry Lepan, qui a une responsabilité maintenant dans la francophonie, disait dans une interview récente qu'il y a 6 millions d'illettrés en France, ça fait 10% de la population adulte, c'est terrifiant. Un tiers des Français ne savent pas utiliser un ordinateur. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de réinvestir massivement sur l'école primaire et il y a un besoin de reformation d'une partie des adultes sur des processus de base qui ont été mal acquis. Donc, l'État doit investir massivement sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Aujourd'hui, au niveau mondial, la création du futur, elle se fait dans les grandes universités de recherche et dans les grands centres de recherche. Alors, par rapport à ce que peut-être les auditeurs imaginent, en fait, il faut savoir que le mot de politique industrielle a changé de sens. La politique industrielle, il y a 40 ans, c'était l'État qui décidait de créer un groupe en fusionnant deux groupes existants, qui nommait les PDG, ainsi de suite. Bon, ça n'existe plus. Mais comme on est dans la troisième révolution industrielle qui, depuis une trentaine d'années, par la numérisation systématique de tous les systèmes de production et de distribution, change complètement la donne, ce qui est décisif, c'est que l'État investissent sur ce qu'on appelle les technologies génériques, celles qui sont en amont de celles qu'utilisent les entreprises. Donc, il faut que l'État favorise les systèmes de recherche et les systèmes d'enseignement supérieur.
Mais il ne s'agit pas de créer un géant public du numérique, par exemple.
Voilà. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de la croissance. Maintenant, il y a un autre aspect qui est de ne pas perdre le contrôle de ces entreprises existantes. Et là, on a un déficit majeur sur un point précis, c'est qu'on n'a pas créé de fonds de pension, ce qu'on aurait dû faire il y a 25 ans. Donc on a une épargne massive qui est en livret A, on doit avoir 260 milliards d'euros en livret A. Mais une des raisons pour laquelle on perd le contrôle de boîtes les unes après les autres, c'est qu'il n'y a pas d'actionnariat de long terme français.
Bah, attendez, avec la réforme de l'ISF où, qui se transforme, alors, si j'ai bien lu, en impôt
que je sur la fortune immobilière.
Sur la fortune immobilière, merci beaucoup Guillaume Gouvert. Là, l'argument qui est avancé, c'est justement de dire, oui. Voilà, on va permettre au capital d'être utile à l'économie réelle.
Alors, la suppression de l'ISF sur les actions, ça va surtout éviter l'expatriation des entrepreneurs. Bon, donc c'est une mesure intelligente. Mais quand on parle de l'actionnariat d'entreprise, il faut un actionnariat de long terme qui se constitue sur la durée avec l'accumulation d'épargne investie dans des fonds qui permettent d'acheter des actions.
Juste si vous permettez, pour qu'on entende aussi Mathieu Plane réagir sur cette question, vous dites c'est une mesure intelligente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Plane? Ouais. C'est quand même un pari sur l'avenir.
Oui, mais pas, avant qu'il réponde, ce que j'ai dit aussi, c'est que ça ne répond pas à la question de ce capitalisme de long terme.
D'accord. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est un pari plus que risqué. C'est-à-dire que, très bien, on va baisser la fiscalité pour les plus gros patrimoines financiers, bon, qui vont avoir des gains colossaux par cette réforme-là. Le problème, je trouve qu'on aurait pu avoir une réforme, à mon avis, plus intelligente, qui était de dire... aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème de financement dans l'économie, si ce n'est sur quelques secteurs d'innovation, là où il va y avoir le plus de risques. Le problème, il n'est pas qu'on manque d'épargne pour investir. Le problème, c'est où va s'affecter cette épargne. On aurait pu très bien mettre en place une tuyauterie qui dit, par exemple, il y avait l'ISF PME, mais qui ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que vous pouvez déduire une partie de l'ISF si vous investissez dans une PME. Ben là, on aurait pu créer un fonds de pension à la française, typiquement en disant, ben, si vous investissez dans ce fonds, qui peut être géré, il faut voir, par la BPI, par exemple, qui aurait eu pour objectif de financer l'innovation et le risque. C'est-à-dire à faire un gros fonds qui, justement, va repérer les entreprises qui ont besoin de ces financements, qui prennent des risques. Et là, on était sûr que la baisse de cette fiscalité allait financer ce risque-là. Parce que réduire l'ISF ne vous garantit pas que ces actionnaires vont prendre de risques. Et en plus, on ne nous garantit même pas que l'investissement sera en France. Parce que vous pouvez très bien réduire la fiscalité de ce compte patrimoine, mais ce patrimoine, il n'est pas obligatoirement axé en France. Donc vous pouvez très bien investir à l'étranger et avoir un ISF réduit. Donc je pense que s'il y avait même en plus... Donc on aurait dû mettre cette tuyauterie-là en place. Et puis après, si on considère qu'on a un problème de fiscalité du capital ou de sa rentabilité, même la logique de réduire l'impôt sur les sociétés est meilleure. Parce que là, vous avez l'assurance que l'investissement sera fort en France. Là, en réduisant la fiscalité des détenteurs du patrimoine financier, rien ne vous garantit que ça financera le risque ou que ça fera des investissements en France.
Guillaume Goubert.
En vous écoutant tous les deux, il est clair que les conditions de la croissance et le rôle que l'État peut jouer pour créer les conditions de la croissance, ça se situe dans... C'est une œuvre de longue haleine. Ce sont des actions de long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Mathieu Plane, pour que on ait cette visibilité, cette stabilité de la vision au-delà des échéances électorales qui reviennent souvent?
Bon, c'est un sujet très compliqué là-dessus. Je pense que l'économie telle qu'elle est depuis 20 ans et notamment avec les échanges commerciaux financiers qui sont très très puissants, très imbriqués, font qu'on a des cycles très marqués. Et si vous regardez, en fait, en l'espace de 15 ans, on a eu 3 crises financières majeures, ce qui est assez inquiétant d'ailleurs. Vous avez eu la crise l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. 2008, vous avez la crise subprime qui ravage l'économie mondiale. Et en zone euro, typiquement, à partir de 2011, vous avez la crise des dettes souveraines. Donc ça veut dire que vous avez des conséquences extrêmement brutales sur l'économie. Et justement, cette activité, cette croissance cyclique va avoir des interactions et des conséquences sur l'emploi. Donc, c'est pas le contrat de travail qui va jouer là-dedans. C'est vraiment, typiquement, ces cycles économiques qui sont extrêmement imbriqués. Donc, si vous voulez de la stabilité, il faut aussi de la stabilité au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il faut aussi de la régulation. Il faut aussi que la zone euro soit mieux coordonnée. Ça veut dire, ça renvoie à toute une politique économique, mais qui est pas uniquement et propre à la France.
Alors, justement, Christian Saint-Etienne, est-ce que l'instabilité de ces cycles économiques ne justifie pas, par exemple, que l'on maintienne des emplois aidés qui permettent d'absorber les chocs des crises? C'est aussi un des sujets de débat de ces dernières semaines, avec cette intention du gouvernement de réduire considérablement leur nombre.
Non, mais les emplois aidés, c'est un autre sujet.
Non, c'est pas un autre sujet, parce que c'est aussi une façon de permettre à des gens qui perdent leur emploi parce que, ou qui n'ont pas accès à l'emploi parce qu'on est dans une période de crise, de travailler quand même. Donc c'est lié, non ?
Mais je dis que c'est un autre sujet parce que généralement, malheureusement, on les emploie dans des activités à faible valeur ajoutée et surtout souvent dans des emplois qui sont dans le secteur public avec un très très faible taux d'insertion après. Donc si vous voulez, si on veut aider les gens à trouver un bon boulot, on leur donne un emploi aidé quand on a échoué dans tout ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire quand on a échoué à l'école, quand on a échoué au collège, quand on a échoué au lycée, quand on a échoué à l'université et que les gens sont au chômage, on leur file un emploi aidé.
On peut y voir une forme de traitement social du chômage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément vocation à ce que ça se transforme en emploi pérenne, mais c'est en attendant que ça aille, non ?
Oui, alors ça, c'est pour ça que je dis que c'est un autre sujet, parce qu'il y avait 350 000 emplois aidés essentiellement dans l'administration. Qu'on en garde 150 000 pour aider certaines collectivités locales, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quitte à faire quelque chose sur ce système-là, il vaut mieux massivement investir sur l'apprentissage et la formation professionnelle pour leur apprendre des jobs qui leur permettront d'avoir une vie digne avec des salaires qui sont croissants. Parce que là, ce sont des trappes à sous-productivité et ils ne vont pas avoir des carrières construites derrière. Et sur la question d'ailleurs du développement de nos entreprises et la question qui est extrêmement majeure de la stabilité des politiques économiques et des politiques fiscales, c'est un vrai problème en France. Parce que, alors après ça va très très loin, hein, mais en France, l'État considère que sur beaucoup de sujets, il sait mieux les choses que tous les autres acteurs. C'est une vision héritée de la Révolution française où l'État prométhéen transforme la société et accouche de l'homme moderne. Très bien. Sauf que en matière économique, on voit que c'est la recherche, l'investissement, la formation sur de très 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 longue durée qui donne des résultats positifs comme en Allemagne, en Corée, au Japon. Et donc, si vous voulez, il y a au fond un choc entre cette nécessité de long terme de la vie économique qui est assez pédestre, assez paysanne, quoi. Il faut juste travailler, investir, étudier, faire de la recherche, faire de l'innovation sur de très longues durées avant que ça paye. Et puis, il y a les jeunes ministres qui arrivent, ils ont 2 ans devant eux, il faut qu'ils laissent leurs traces, ils prennent des décisions majeures. Et dans d'autres pays, vous n'avez pas ça, puisque un ministre qui arrive de l'économie en Angleterre ou en Allemagne, il n'arrive pas avec l'idée de transformer le système économique. Et ça, donc, ça interroge notre histoire économique et notre histoire politique. Et si on... Alors, je rejoindrai néanmoins, si on voulait avoir une action politique qui soit glorieuse pour un ministre et qui, néanmoins, réponde à votre question de long terme, alors moi, j'ai fait une proposition qui va peut-être sidérer tout le monde. C'est pas, je l'ai déjà faite, mais ça correspond exactement aux questions que vous vous posez. Moi, je créerais des fonds de pension de gauche. C'est quoi des fonds de pension de gauche ? Ça serait des fonds de pension où vous auriez un conseil de surveillance et un directoire. Et dans le conseil de surveillance, ça pourrait être des fonds de pension au niveau des branches. J'aurais 50% de syndicats et 50% de patronat qui fixeraient les grandes catégories d'investissement de ce fonds de pension auquel pourraient cotiser tous les salariés. Et puis, ils feraient un appel d'offres pour faire gérer ça par une entreprise financière. Mais au moins, ça permettrait à la population de garder une certaine capacité d'action sur ces investissements faits par les fonds de pension de gauche. Et Par exemple, on aurait pu avoir un fonds de pension qui se dise, ben, j'investis dans Alstom, l'État ne veut pas prendre 15%, ben, on aurait pu avoir un fonds de pension de cette nature qui dise, moi, je prends les 15% d'Alstom.
Bon, n'imaginez pas forcément que Christian Saint-Etienne vous alliez promettre comme ça, c'est une forme de relance du paritarisme hein, qui est un peu mise à mal aujourd'hui à travers ces fonds de pension de gauche. Bon, vous avez dit beaucoup de choses, alors j'imagine que Mathieu Plane a envie de réagir à tout ce que vous avez dit, peut-être en redémarrant quand même sur la question des emplois aidés déjà.
Alors déjà, je suis d'accord avec Christian là-dessus, hein. Moi, je suis d'accord pour monter les fonds de pension de gauche gérés comme ça avec une gestion. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que l'État a quand même une vision aussi de long terme que n'ont pas forcément certains actionnaires et surtout sur des choses qui sont aussi stratégiques. Dans les grosses industries, on voit que effectivement, elles peuvent être marquées par des cycles économiques assez forts et pourtant être essentielles pour l'avenir. Donc là, l'État a un rôle important.
Bon, je ne sais pas si ça trouvera une oreille attentive au sein du gouvernement, parce qu'à l'heure où on annonce la nationalisation par exemple de l'assurance chômage, on n'est pas dans cette dynamique-là.
Mais nous, on y est. Après, sur les emplois aidés, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le marché du travail est très, très segmenté. C'est-à-dire qu'on voit qu'on parle, par exemple, du chômage des jeunes, ce qui en fait... une erreur en soi, parce qu'on voit que le taux de chômage des jeunes est très différent sur votre niveau de diplôme. Typiquement, un ingénieur, un an après être sorti de son école, le taux de chômage est inférieur à 4%. Un jeune sans diplôme, le taux de chômage est supérieur à 50%. Donc, les emplois aidés, c'est vraiment donner la possibilité d'une seconde chance avec un revenu et accompagner une formation. Et c'est là où les emplois aidés ont quand même beaucoup évolué par rapport à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, où ils étaient ouverts un peu à tout le monde, par exemple, typiquement les emplois jeunes. Là, c'est cibler les publics les plus éloignés du marché du travail. Je veux dire, même si la situation du marché du travail s'améliore, ces gens-là ne vont pas se réinsérer comme ça du jour au lendemain. Et essayer de les affecter à la fois avec des formations et qui est, on va dire, socialement ou économiquement un intérêt. Je veux dire, typiquement, quand vous allez avoir des emplois aidés pour faire le service dans les cantines ou les AVS ou typiquement dans certaines associations, c'est effectivement une façon de pas embaucher des fonctionnaires et vous allez utiliser ces personnes-là. Ça leur donne quand même une expérience. Je pense que quand même cette expérience-là et un revenu est mieux que de ne rien faire. Et surtout, il ne faut pas penser qu'il y a une éviction par rapport à l'emploi privé. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont quand même très éloignés du marché du travail. Et donc, le rôle là, ce n'est pas de faire juste du traitement social. Je pense que c'est là où ça a évolué. C'est effectivement d'offrir un emploi et une formation avec, sur des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Et là, je trouve qu'il y a un job à faire. Effectivement, les emplois d'avenir répondaient à ça. Et quand vous regardez le taux de réponse et de satisfaction de ces gens-là qui ont eu, il est de plus de 75%. Ils sont satisfaits par rapport à l'insertion future sur le marché du travail. Quand même.
Mais Mathieu Plane, quand le gouvernement dit que le rapport, l'expression est toujours un peu dure quand il s'agit de personnes, mais que le rapport coût-efficacité des emplois aidés est mauvais, est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'est très compliqué de le mesurer. C'est-à-dire que quand on regarde le taux de réinsertion sur le marché privé, il faudrait le comparer par rapport à quelqu'un qui a la même qualification et qui ne serait pas passé par un emploi aidé, c'est-à-dire qui serait au chômage. Et là, vous voyez que c'est quand même plus efficace. Ça coûte 2 milliards et demi.
Enfin, le taux de réinsertion, il est de 20%.
Hein, il est 41% en fait dans le non-marchand et un peu plus dans le marchand.
C'est très supérieur dans le marchand.
Oui, et alors le marchand, le problème, c'est que le marchand, en fait, cible des populations qui sont différentes. C'est-à-dire que dans les emplois aidés du secteur marchand, ils ne vont pas recruter les personnes les plus éloignées du marché du travail. Donc vous avez cet effet, en fait, de sélection déjà, qui fait que c'est très difficile à comparer. Et après, sur le coût budgétaire, c'est 2,5 milliards par an pour 300 000 emplois. Faites le calcul de combien vous coûte l'emploi, sachant que vous donnez du revenu au SMIC, c'est au SMIC et pas toujours en plus des temps pleins, pour des gens qui sont quand même avec qui ont très très peu de revenus. Donc c'est complètement réinjecté dans l'économie. Donc le coût ex poste est très faible. Faites le comparaison, par exemple, à d'autres mesures qu'on a prises, que soit le CICE, le pacte de responsabilité et le rendement sur l'emploi. C'est pour ça que je trouve que dire que les emplois aidés coûtent cher, je suis pas tout à fait d'accord.
Peut-être que de votre point de vue, Christian Saint-Etienne, ça serait plus efficace si plutôt que de subventionner ces emplois, donc qui sont des emplois aidés, on embauchait davantage de fonctionnaires. C'est-à-dire que d'être moins hypocrite finalement dans l'approche, et plutôt que de dire voilà, on va faire de la subvention qui est forcément indirecte, là on embauche. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses.
Non, je voudrais pas que les auditeurs aient l'impression que sur ces sujets comme sur d'autres, il y a un débat idéologique. Les emplois aidés ou pas aidés, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réinsertion. Et moi, j'ai lu, je veux me tromper, que, contrairement à ce qu'on imaginait au départ, la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur dans les emplois aidés était assez élevée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à cibler les gens qui étaient complètement éloignés du marché du travail. Et donc, je ne suis pas contre, au contraire, l'idée d'aider les gens qui sont très éloignés du marché du travail, mais à ce moment-là, je préfère un autre mécanisme qui est très puissant, qui marche très bien, et qui s'appelle les entreprises d'insertion. Donc, c'est même pas pour faire des économies. Je suis prêt à dépenser de l'argent pour insérer les gens, mais je pense que le mécanisme des entreprises d'insertion fonctionne mieux pour les gens qui sont très éloignés du marché du travail. Pour ce qui est, en fait, si vous voulez, on parle pas de la même chose. Si vous avez des gens très éloignés du marché du travail, je préfère les entreprises d'insertion. Maintenant, on observe que beaucoup d'emplois aidés sont exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une aide d'État pour aider une commune qui a besoin d'un emploi sur lequel elle peut pas embaucher un fonctionnaire. Alors là, ça me pose un problème. Parce qu'à ce moment-là, c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait une redéfinition du rôle de l'État. Est-ce que, dans ces conditions-là, à condition que les coûts soient maîtrisés, est-ce que c'est la mission de l'État d'embaucher des fonctionnaires pour travailler dans des cantines? Moi, j'ai une vision différente de l'État. Pour moi, l'État, il doit être stratège, il doit être régalien, il doit assurer par une armée d'élite, par une police efficace, par une justice qui fonctionne, un système qui fonctionne, par un État stratège qui, comme je le disais tout à l'heure, aide la recherche, le développement, ainsi de suite. Faut-il que lui-même ait 5 millions de fonctionnaires qui fassent les choses dans les cantines ou qui nettoient les rues? C'est une vraie question qu'il faut analyser. Pour moi, je préfère un état d'élite avec des fonctionnaires de très haut niveau qui fassent vraiment leur boulot, alors que là, on a un état qui est mou, qui a plus de vision stratégique. C'est pas pour rien que la France est dans la merde avec 3 millions et demi de chômeurs. Donc je préférerais un état recentré sur ses missions fondamentales qui pousse la recherche, le développement, la croissance économique et qui délègue toute une série de missions sous son contrôle et sur des cahiers des charges.
Comment est-ce que vous répondez à cette question, vous, Mathieu Plane?
Alors, non, je voulais juste rappeler là-dessus. Enfin, c'est que aujourd'hui, justement, comme les emplois aidés ont beaucoup évolué, ici, les personnes dans le marché du travail, les dernières études de la DARES montrent que c'est 85% de gens qui sont en difficulté par rapport au marché du travail. Donc là, il y a quand même des vrais efforts qui ont été faits et un vrai recentrage sur le ciblage. Donc là-dessus, c'est quand même un point important.
Sur le nombre de fonctionnaires?
Sur le nombre de fonctionnaires. Alors, moi, ce que je dis juste, c'est que, en fait, on parle beaucoup de la dépense publique en France. Et en fait, on s'aperçoit que l'emploi public, c'est-à-dire qui dépend de ce qu'on appelle du non-marchand, qui ne soit pas uniquement les fonctionnaires, représente à peu près 20% de l'emploi total. Ça, c'est source OCDE. C'est à peu près ce qu'on retrouve en moyenne dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire, par exemple, si vous serez surpris, mais l'Allemagne ou le Royaume-Uni ne sont pas très éloignés. Les pays scandinaves sont bien au-dessus.
Enfin, l'Allemagne est plutôt à 16-17.
Alors, l'Allemagne, mais le Royaume-Uni est à peu près comme nous. L'Allemagne est un peu plus basse, c'est vrai. Nous, la particularité, c'est plutôt le statut. C'est-à-dire que ces gens sont sous un statut de fonctionnaire. Ce que je veux dire, c'est que dans la dépense publique, vous avez donc à peu près 20% de l'emploi total que c'est la dépense publique. La grosse différence par rapport aux autres pays est liée surtout à notre système de protection sociale. Et pas tellement, en fait, à la masse salariale et à l'emploi public. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'on a une masse énorme de fonctionnaires qui nous coûterait très cher. En fait, la différence n'est pas là-dessus. Elle est vraiment, il y a plusieurs choses, mais notamment le régime de protection sociale et en particulier les questions des retraites qui sont par répartition et donc publiques, et la santé aussi qui est essentiellement publique, aussi l'éducation nationale d'ailleurs. Donc c'est aussi essentiellement des transferts qui expliquent cette différence. Donc il n'y a pas une singularité majeure sur la question de l'emploi public en France.
D'un mot, Christian
Saint-Étienne. En revanche, il y a une singularité sur le fait que l'État français est gestionnaire de court terme parfois de valeur ajoutée dans les services apportés et qu'il n'est plus stratège, se poser des questions sur les investissements stratégiques de long terme. On le voit bien là, soyons clairs, quand Bruno Le Maire dit on n'a pas vocation à être sur un strapontin dans une entreprise, c'est parce que l'État ne voulait pas laisser les quelques centaines de millions d'euros nécessaires pour garder les 10% ou 15% de la boîte. Donc, il en a fait un grand principe, mais c'est parce qu'il a plus de pognon.
S'agissant de la fonction publique, et juste pour conclure cette discussion, j'ai sous les yeux une dépêche qui évoque le projet de Matignon, justement, d'ouvrir une réflexion assez globale et qui va sans doute faire pas mal de bruit dans les semaines et les mois à venir, puisque cette réflexion serait ouverte notamment à des personnalités étrangères et des chefs d'entreprise, un comité chargé de proposer des réformes et des économies pour le service public. Il y a déjà un certain nombre de syndicats de fonctionnaires qui montent au créneau, et j'imagine que ce sera un prochain thème de débat dans cette émission, à laquelle je vous remercie d'avoir participé tous les deux, Christian Saint-Étienne et Mathieu Plane. On peut vous réécouter sur le site de France Culture, on peut vous relire dans la croix du jour, la loi peut-elle créer de l'emploi, vous y intervenez tous les deux. Merci beaucoup à Guillaume Goubert de m'avoir accompagné. Ce sera le cas donc chaque dernier jeudi du mois. Merci également à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Bulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Jacques Hubert. On se retrouve demain pour le Club des idées. On parlera de l'Europe et du discours, enfin des discours d'Emmanuel Macron sur le sujet. S'agissait-il de discours exemplaires ? C'est la question que nous poserons au club.